Merci beaucoup d'avoir choisi Radio France Internationale pour vous informer. Il est 5h à Paris. 4h en temps universel, l'heure d'un nouveau journal avec vous, François Ballarin. Bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. À la une, moins de 10 jours après sa victoire à la présidentielle, Donald Trump continue de nommer les futurs occupants des postes clés de son administration. La rumeur est maintenant officielle. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, connu pour ses positions très dures sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Et Tulsi Gabbard, transfuge démocrate devenue républicaine, est nommée directrice nationale du renseignement. De l'eau dans le gaz entre la France et l'Azerbaïdjan en pleine COP29 à Bakou. Paris dénonce les propos du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui parle de crimes du régime du président Macron dans les territoires français d'outre-mer. Résultat, la ministre française de la transition écologique annule sa venue à Bakou. Un match de foot à risque ce jeudi en France. Les Bleus reçoivent Israël, une rencontre qui divise la classe politique. Si du côté du camp présidentiel, on soutient l'importance de la présence du président et du premier ministre dans les tribunes, à gauche, on regrette que cette rencontre ne soit pas l'occasion d'envoyer un message fort à Israël en pleine guerre à Gaza et au Liban. Et puis cela faisait 14 ans qu'elle était suspendue au Niger. L'ONG française Acted voit ses activités suspendues dans le pays. Décision des autorités de Niamey sur laquelle nous revenons dans cette édition. Aux États-Unis, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Le président élu, mais pas encore investi, a été reçu par Joe Biden ce mercredi soir. Après une poignée de main entre les deux hommes, Donald Trump a assuré que la transition sera la plus fluide possible. Joe Biden, de son côté, plaide pour le soutien à l'Ukraine auprès de son successeur. Parallèlement, Donald Trump continue, lui, de composer l'équipe qui va l'entourer pour son deuxième mandat avec des nominations parfois étonnantes. À Washington, les précisions de Guillaume Nodin.
Pour décrocher une position clé dans l'administration Trump 2, il y a une qualité qui vient manifestement avant les autres, c'est la loyauté, voire même une forme d'allégeance. C'est ainsi que le président élu choisit un personnage controversé pour devenir ministre de la Justice, mais un personnage qui le soutient envers et contre tout, l'élu de Floride, Matt Gaetz, 42 ans, connu jusqu'ici pour avoir, avec un petit groupe de républicains radicaux, fait tomber l'ancien speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. Donald Trump se dit persuadé qu'il mettra fin à l'instrumentalisation de la justice dont il estime avoir été victime. Peu importe également si Matt Gaetz est soupçonné d'avoir eu une relation tarifée avec une mineure lors d'une soirée où circulait aussi de la drogue. Il a démissionné de ses fonctions à la Chambre et l'enquête de la commission d'éthique à son sujet s'en trouve automatiquement arrêtée. Étonnement aussi après la nomination de l'ancienne démocrate devenue trumpiste convaincue Tulsi Gabbard comme directrice nationale du renseignement. Étonnement en raison de ses prises de position conformes à celles de la Russie sur la guerre en Ukraine et sa compréhension affichée pour le dictateur syrien Bachar el-Assad. Enfin, cela a pris quelques jours, mais le sénateur de Floride Marco Rubio, connu lui pour ses positions très dures sur la Chine, est confirmé au poste de secrétaire d'État. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Donald Trump, qui l'a promis lors de sa campagne, il veut doper l'extraction de pétrole et exporter davantage de gaz liquéfié. Les géants de l'énergie fossile qui affichent leurs ambitions de réduire drastiquement les rejets de méthane, mais selon un rapport publié ce jeudi par le Centre de réflexion Carbon Tracker, ces objectifs comportent d'importantes lacunes et risquent tout simplement d'exacerber la crise climatique. Ce rapport vise notamment à interpeller les participants à la COP29 de Bakou. Quatrième jour ce jeudi de discussion sur le climat à la COP en Azerbaïdjan. Mais il n'y est pas question que de climat. De nouvelles tensions sont apparues ce mercredi entre Paris et Bakou. La ministre française de la transition écologique a même renoncé à se rendre au sommet. Agnès Pannier-Runacher qui dénonce des attaques inacceptables du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev contre la France et l'Europe, Margot Ratézic.
Un ministre français de l'écologie absent d'une COP sur le climat, une première depuis l'accord de Paris en 2015. C'est pourtant le choix assumé par Agnès Pannier-Runacher ce mercredi devant le Sénat, après les propos du président azerbaïdjanais.
Les propos tenus par le président Aliyev entre la France et l'Europe sont inacceptables. Je ne me rendrai pas à Bakou la semaine prochaine.
Des propos qui visent la France et son histoire coloniale. Ilham Aliyev a même directement accusé le régime d'Emmanuel Macron coupable, selon lui, de crimes dans les Outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie. Le dirigeant du pays hôte de la COP a aussi étrillé plusieurs institutions européennes, je cite, « symbole de la corruption politique ». Mais la ministre française l'affirme, son boycott n'empêchera pas la délégation française de remplir sa mission sur place. Agnès Pannier-Runacher au micro de Public Sénat.
Les équipes françaises seront à la COP, elles seront dans toutes les salles de négociation. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés pour porter des positions très ambitieuses en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
Il y a encore une semaine, Agnès Pannier-Runacher avait assuré que la France ne cédera pas à la politique de la chaise vide.
Margot Ratézic, là à France, où une semaine après les violences survenues à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv, un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place pour la rencontre de Ligue des Nations qui oppose l'équipe de France à Israël ce jeudi soir. Le match se déroule sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron qui souhaite, je cite, envoyer un message de fraternité après les actes antisémites à Amsterdam. Ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi le premier ministre Michel Barnier seront également présents dans les tribunes, selon plusieurs médias. Présence qui font réagir la classe politique française. Pour Stéphane Travert, député du camp présidentiel, l'offensive israélienne qui perdure à Gaza ne doit évidemment pas empêcher que ce match se tienne.
Le sport, c'est une fête. Et donc, le politique n'a pas à s'ingérer dans un match comme celui-là.
Et en même temps, Emmanuel Macron sera présent, tout comme d'autres responsables. Et
bien sûr, comme d'autres, les ministres, les personnalités de ce pays se rendent au match parce que d'abord, ils aiment le football, d'une part, et d'autre part, parce que lorsque c'est la France qui joue, quelle que soit l'équipe contre laquelle elle joue, eh bien, les autorités sont là pour encourager leur pays. Et puis, il y a aussi peut-être un symbole que l'on veut défendre, la liberté de pouvoir organiser un match et de ne pas se soumettre à une espèce de dictature qui voudrait qu'on ne joue pas un match comme celui-là parce qu'il y a des événements qui se passent à quelques milliers de kilomètres d'ici.
Et si du côté du camp présidentiel on soutient la tenue de cette rencontre, pour le député insoumis Éric Coquerel, c'était au contraire le moment idéal pour envoyer un message politique à Israël en annulant ou en déplaçant cette rencontre hors de la capitale.
On aurait pu à minima le faire ailleurs qu'à Paris, assumer comme un grand événement. Et puis au moment où on a un État qui est en train de raser quasiment Gaza avec la population, agresser le Liban, emprisonner des gendarmes français, on trouve le moyen que le président de la République, le Premier ministre et des responsables politiques trouvent le moyen d'y aller, alors que c'est une compétition de seconde zone. Très franchement, moi je suis Benjamin Netanyahou, je prends ça comme un encouragement à continuer. Donc non seulement le match pose problème, mais en plus de ça, mettre autant d'efforts à venir le célébrer comme le font nos officiels, je trouve ça déplacé.
Des propos recueillis par Victorien Villaume. La politique en France également marquée par la suite de l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Elle était au centre d'un système organisé visant à faire du Parlement européen une vache à lait. L'accusation a requis ce mercredi 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme aménageable et 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National, 3 fois candidate à la présidentielle, qui réagit. Elle dit voir dans l'appel à son inéligibilité une intention de stopper son ascension politique à l'approche du scrutin présidentiel de 2027. C'est désormais officiel, l'ONG Acted interdite d'exercer au Niger. Mardi, l'organisation française s'est vue retirer son agrément par le ministère de l'Intérieur nigérien. Le gouvernement n'a donné aucune explication après cette décision. Présente au Niger depuis 2010, Acted intervient dans 4 régions du pays pour porter assistance aux populations déplacées de force par la situation sécuritaire. Les précisions de Sidi Yansané.
C'est par un arrêté lapidaire que le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur et membre de la junte du CNSP, a signé l'arrêt des activités d'Acted au Niger. Le document se résume à l'annonce du retrait de l'autorisation d'exercice de l'ONG française sans avancer le moindre motif. Le même jour et dans un arrêté distinct, le ministre retire également son agrément à l'ONG nigérienne Action pour le Bien-être, APBE, un partenaire local d'Acted sur des projets humanitaires actuellement en cours. L'organisation française, qui n'a pas souhaité répondre à RFI, intervient au Niger depuis 14 ans dans les régions de Difa, Tawa, Tillabéri et Niamey pour combler les besoins humanitaires des populations déplacées et victimes de l'insécurité au Sahel, en fournissant notamment de l'eau, de l'assainissement et du soutien agricole, une aide qui a bénéficié à 1 million de personnes selon Acted. L'ONG a déjà connu une suspension de ses activités il y a 3 ans à Difa suite à des accusations de connexions douteuses et subversives avec des terroristes. Un an plus tôt, elle était pourtant ciblée par l'État islamique qui a exécuté 6 de ses membres près de Niamey.
En bref, au Brésil, les autorités parlent d'une attaque manquée après que 2 explosions ont été entendues à proximité de la Cour suprême de Brasilia ce mercredi soir. Après les déflagrations, un homme portant des explosifs sur lui a été retrouvé mort devant le bâtiment. Les juges, mais aussi le personnel de la Cour suprême ont été évacués du bâtiment par mesure de sécurité. Cette attaque intervient alors que le Brésil s'apprête à accueillir le sommet du G20 à partir de lundi à Rio de Janeiro. En Argentine, prison et inéligibilité confirmée pour Cristina Kirchner. L'ex-présidente avait été condamnée à 6 ans de prison et d'inéligibilité à vie pour fraude. C'était en 2021, des peines confirmées en appel par la justice hier. Des peines qui seront cependant suspendues en cas de retour de recours devant la Cour suprême. Les soutiens de celle qui reste la figure centrale de la gauche argentine se sont rassemblés hier pour dénoncer une persécution politico-judiciaire à Buenos Aires. Le reportage de Théo Conscience.
Deux fois présidente entre 2007 et 2015 et vice-présidente de 2019 à 2023, Cristina Kirchner conserve le soutien inconditionnel d'une partie de la population argentine, comme en témoigne la foule venue la soutenir hier après la confirmation de sa condamnation. C'est par loyauté que Miguel, retraité, est venu la soutenir.
Je vivais bien quand Cristina Kirchner était au pouvoir. J'avais assez d'argent pour vivre, pour partir en vacances. Mes enfants ont pu étudier à l'université publique. J'ai vraiment de quoi être reconnaissant.
Pour Miguel et pour tous les militants présents hier, Cristina Kirchner est victime d'une persécution politico-judiciaire. La sentence était écrite à l'avance, assure Luis, en référence à la condamnation en appel de l'ex-présidente dans une affaire de marché public frauduleux. Pour Graciela, cette condamnation vise à empêcher celle qui vient de prendre les rênes du parti péroniste d'être candidate de nouveau.
Ce sont des affaires inventées de toutes pièces. Ce qu'ils cherchent, c'est la bannière pour toujours de la vie politique. C'est ça qu'ils veulent.
Malgré cette condamnation en appel, Cristina Kirchner peut pour le moment encore être candidate, notamment à députée l'an prochain. L'ex-présidente a 10 jours pour saisir la Cour suprême, ce qui suspendrait les peines d'inéligibilité et de prison à son encontre. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et c'est en Argentine que s'achève ce journal. Vous écoutez RFI, il est 4h12 en temps universel, 5h12 ici à Paris.
RFI, toute l'actualité.
François Ballarin.
Et nous sommes le jeudi 14 novembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Quelle conséquence va avoir le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur la guerre en Ukraine? La question se pose alors que les derniers noms dévoilés par le milliardaire pour constituer son administration laissent penser que le robinet de l'aide américaine pourrait se tarir. C'est même le soutien de Washington à Kiev qui est en question. On en parle avec notre correspondante dans la capitale ukrainienne dans quelques instants. Et puis juste après ça, culture avec le dernier roman de Marilyn Débiol qui se déroule dans le sud de la France. On parle aussi de la pneumonie dans le Conseil Santé avec Caroline Paré dans les minutes qui viennent. Mais avant cela, évitez les déplacements en raison du risque d'inondation. C'est le message qu'ont reçu les habitants de Valence en Espagne ces dernières heures et ce deux semaines après les inondations meurtrières qui ont touché la région qui borde la Méditerranée. L'une des autres facettes justement du réchauffement climatique dans le bassin méditerranéen, eh bien, c'est la sécheresse et dans son sillage, des incendies gigantesques, qui dévorent certains territoires à une vitesse vertigineuse. En Italie, la Sicile est la région la plus touchée par les deux phénomène. L'été 2023 a été celui des incendies records, l'été 2024 celui d'une sécheresse sans précédent. Sur place, des initiatives de la société civile voient le jour pour tenter de trouver des solutions. C'est le cas de l'association Fenice Verde, littéralement le phénix vert que notre correspondante Cécile Debarge a rencontré à Palerme, en Sicile.
Devient un jardinier de la nature. C'est le slogan de l'association Fenice Verde qui propose pour la toute première fois, tous les week-ends de novembre, des ateliers de récolte et de conservation de graines autochtones dans les montagnes qui entourent Palerme. C'est le projet Gin Extra que détaille le président de Fenice Verde, Emiliano Farinella.
On ramasse les graines, on les certifie conformes, on édite un registre pour assurer leur traçabilité. Ensuite, on fait grandir les plantes chez des pépiniéristes et enfin, on les plante dans les zones qui ont été touchées par les incendies.
Lors de leur promenade du week-end, les bénévoles de l'association récoltent donc uniquement des graines d'espèces locales les plus résistantes aux flammes des incendies. Elles servent à créer une banque de plasma germinatif pour faire pousser des bébés plantes et les réintroduire sur les terrains brûlés par les incendies après plusieurs années de jachère. Emiliano Farinella.
L'idée, c'est de sélectionner des espèces locales pour préserver un génome compatible avec celui des plantes détruites.
Ces plantes détruites, adaptées au climat de plus en plus chaud et de moins en moins pluvieux de la Sicile, sont aussi les meilleurs atouts pour contrer un autre effet du changement climatique dans la région. Environ 70% de la Sicile est exposée au risque de désertification. Cet été, la région a vécu un épisode de sécheresse sans précédent. Or, sécheresse et incendie sont liés.
Le problème, c'est que la végétation est de plus en plus sèche à l'arrivée de l'été. Et le plus grave, c'est la sécheresse en automne et en hiver, qui fait qu'il ne pleut pas au moment où justement il devrait pleuvoir.
Davide Borgia est membre de l'association de protection de l'environnement Legambiente à Messine, de l'autre côté de l'île.
La part de flore sèche est de plus en plus élevée, donc petit à petit, même la végétation d'altitude devient plus vulnérable au feu.
Mais l'espoir est permis et les incendies ne sont pas une fatalité, même si cela demande des décennies de patience. Au détour d'un virage, le soleil peine à percer sous les feuillages denses. La voiture s'enfonce dans un sous-bois. Davide Borgia s'arrête au bord de la route. Tout autour, des chênes majestueux. C'est un projet de reboisement lancé 20 ans plus tôt et miraculeusement rescapé des flammes.
Pour un botaniste, pour quelqu'un qui aime la nature, ça réchauffe le cœur. Parce que c'est la promesse de ce qu'on pourrait avoir à terme. C'est passionnant à étudier. Il y a un peu moins d'herbe sèche qu'ailleurs. C'est plus frais. On sent qu'il y a de l'eau. Même s'il y avait un incendie, il aurait beaucoup de mal à se propager rapidement.
La Sicile compte encore près de 500 000 hectares de forêt, soit près de 15% de son territoire. C'est le taux le plus bas d'Italie, juste après les Pouilles. Cécile Debarge, Palerme, RFI.
Et ce reportage à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Il est 5h16 à Paris, 6h16 à Kiev. L'Ukraine qui, depuis quelques jours, a, comme le reste du monde, les yeux tournés vers les États-Unis, où les noms de ceux qui vont composer la future administration Trump sont dévoilés peu à peu. Dernier en date, ceux de Marco Rubio, qui prendra la tête de la diplomatie américaine, et celui de Tulsi Gabbard pour diriger le renseignement. Les positions pro-russes de cette ancienne militaire ont fait polémique. Face à ces nominations, l'Ukraine retient donc son souffle. Nous allons justement prendre le pouls du pays, dont le plus gros soutien militaire dans sa défense contre l'agression russe est justement les États-Unis. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Kiev. Emmanuel, quelles sont les réactions du côté de Kiev face à ces annonces de Donald Trump ?
Alors pour les Ukrainiens, il y a une attitude plutôt pragmatique, évidemment avec des inquiétudes, mais ce qui compte vu de Kiev dans ses nominations, c'est de voir qui va être susceptible de continuer à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Parmi les inquiétudes des Ukrainiens, il y a la présence annoncée dans le futur gouvernement Trump d'Elon Musk, qui se fait régulièrement l'écho de la désinformation russe, notamment sur son réseau social X. On attend aussi de savoir qui va être nommé comme envoyé spécial pour la paix, que Donald Trump a présenté sans le nommer comme quelqu'un d'expérimenté, chargé d'arriver un accord pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Sur la nomination de Pete Hegseth comme secrétaire à la défense, si elle est confirmée par le Congrès, encore une fois, les Ukrainiens attendent de le voir évoluer dans son nouveau rôle avant de s'en inquiéter malgré son manque d'expérience politique et son animosité face à l'OTAN.
Alors on entend de plus en plus parler, notamment parmi les proches de Donald Trump, mais aussi en Europe, de concessions territoriales. Comment les Ukrainiens appréhendent-ils cela ?
Je rappelle qu'en juin, lors du sommet de la paix organisé par l'Ukraine en Suisse, 80 pays ont appelé à ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine telle qu'elle a été définie en 1991, donc avec la Crimée et les régions de Donetsk et Luhansk, soit respectée et soit la base de tout accord de paix. Cette souveraineté est internationalement reconnue, notamment par le biais de traités qu'avait aussi signé la Russie avant de violer le droit international dès 2014. Du côté de la population, 58% des Ukrainiens restent opposés à toute cession de territoire, selon un sondage de l'Institut de sociologie de Kiev. C'est un chiffre en baisse depuis 2022 où plus de 80% des Ukrainiens refusaient tout abandon de territoire, mais ça reste une majorité.
Et la population n'est pas prête à entendre parler de concessions, mais qu'en est-il sur le terrain où les Russes, on le rappelle, ont enregistré des avances ces dernières semaines ?
Effectivement, la situation sur le terrain est extrêmement tendue. Les troupes ukrainiennes se battent pour ne pas être prises en étau dans le secteur de Kourakové, dans la région de Donetsk. Kourakové, où les combats sont les plus intenses, et les Russes relancent des offensives, notamment dans le secteur de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. Kiev confirme également que la Russie a rassemblé 50 000 soldats dans la région de Koursk pour tenter de repousser l'armée ukrainienne qui y a lancé une offensive visant à montrer que si zone grise devait exister, elle pourrait également être côté russe ou bien que ce territoire pourrait être échangé contre le territoire ukrainien actuellement illégalement occupé par les Russes.
Emmanuel Chaz, correspondante de RFI à Kiev. Et culture pour poursuivre cette demi-heure d'information. L'agrafe, c'est le nom donné au péroné, cet os de la jambe. Mais c'est aussi le titre du dernier roman de Marine Débiol, Emma Foulconis. L'héroïne se fait effectivement mordre à la jambe et s'ensuit une quête de ses origines arquies sur fond de racisme. Dans l'arrière-pays niçois, dans le sud de la France où se déroule cette histoire, la romancière est l'invitée de Muriel Mahalouf.
Bonjour Marilyn Débiol.
Bonjour.
L'agrafe, votre dernier roman, a pour héroïne une jeune femme, Emma Foulconis, qui découvre, suite à un accident, ses origines arquies. Comment est née cette histoire ?
Plusieurs choses l'ont fait naître. D'abord, mes livres précédents, puisque c'est quand même des motifs récurrents. La guerre d'Algérie, la course, puisque cette Emma Foulconis courait avant son accident dans les collines. Et puis aussi, un fait divers qui a un peu défrayé la chronique voici 2 ans. Un étranger au village de l'Escarène où se situe dans l'arrière-pays niçois l'histoire a été lynché un soir d'octobre juste parce qu'il était étranger avec des chiens. Ce qui est important pour mon histoire en tout cas. Et ce qui a été catastrophique pour ce pauvre homme qui est mort de ses blessures quelques jours après.
Le racisme, d'ailleurs, traverse l'histoire de ce roman. Et il y a cette phrase qui jaillit « Mon chien n'aime pas les Arabes ». Le chien qui a mordu la jeune Emma et va bouleverser sa vie. Et pourtant, Emma n'a pas de ressentiment. Elle est très lumineuse. C'est un personnage qui est au-delà, justement.
Au-delà, c'est bien. J'aime bien que vous disiez ça. En effet, Emma Foulconis, elle va pas s'arrêter sur cette phrase. Au contraire, cette phrase, finalement, cette phrase abominable, au fond, c'est la première phrase du récit qui va lui permettre de reconnaître d'où elle vient et aussi qui va lui permettre de, non pas de courir comme autrefois, comme avant, mais d'inventer quelque chose d'autre.
Parce que Emma Foulconis aimait courir dans cet arrière-pays niçois et tout d'un coup son corps est entravé, son mouvement est arrêté. Et pour qu'il reprenne différemment, je vous cite, un tremblement d'abord, une oscillation, presque une danse immobile. Et l'écriture aussi est un mouvement pour vous.
Ah oui, oui, justement, ce que trouve Emma Foulconis, je ne le savais pas au début du livre. C'est un cadeau que le livre m'a fait, en vérité. Donc c'est vraiment un mouvement vers ce qu'elle trouve, non pas pour courir comme avant, mais pour exulter de la même manière dans son corps.
Vous habitez vous-même dans cet arrière-pays niçois. Vous vous inspirez beaucoup de votre entourage ?
Oui, moi j'aime bien, j'ai pas de goût pour l'exotisme, j'aime bien regarder autour de moi. Il y a aussi de l'enquête dans ce livre. Je suis allée voir précisément les harkis. Puisque dans ce paysage de l'Escarène, il y a un hameau de forestage, il y avait, puisqu'il vient d'être rasé. Et là, justement, son inscription dans le paysage dit beaucoup de choses. Il était à l'écart du village, et non pas dans le paysage que je viens de vous décrire, mais dans un vallon. Et quand on passait sur la route, on pouvait ne pas le voir.
Donc caché.
Caché, bien sûr.
Parce que souvent, la culture harki est cachée de part et d'autre, d'ailleurs. Que ce soit du côté de la France ou de l'Algérie.
Absolument. Mais il faut dire que depuis quelque temps, la littérature, il y a eu des hommages rendus. C'est vrai. Mais la littérature a pris en charge cette histoire. Et je pense que ça, c'est important.
Merci Marilyn Débiol.
Merci beaucoup.
La Graffe, donc votre dernier roman, est publié aux éditions Sabine Vespizer.
Marilyn Débiol, auteure de La Graffe, répondait aux questions de Muriel Mahalouf.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé, Caroline Paré et son invité nous parlent ce matin de la pneumonie.
Docteur Yacine Tanjaoui Lambiote, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service de pneumologie et infectiologie de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. Quels sont aujourd'hui les principaux supports de prévention de la pneumonie ?
La prévention essentielle passe par de la vaccination. Vaccination sur 2 types de pathologies. Quand on parle de pneumonie, souvent on parle de pneumonie bactérienne, c'est-à-dire une infection bactérienne qui va entraîner une infection dans le poumon pour laquelle on prend des antibiotiques. Et il se trouve que la bactérie la plus fréquente est une bactérie qui s'appelle le pneumocoque, qui est potentiellement aussi une des plus mortelles, et pour laquelle on a un vaccin. Un vaccin qui est efficace, pour lequel le schéma vaccinal était jusqu'ici compliqué, qui se simplifie, notamment depuis cette année-là, un vaccin qui se fait en une seule injection. Et puis il y a un deuxième type de vaccination, qui sont les vaccinations contre les virus, Alors vous allez dire, quel rapport entre les virus et les infections bactériennes? En fait, les infections virales pulmonaires, que ce soit la grippe notamment, font le lit des infections bactériennes et donc des pneumonies derrière. Donc se vacciner contre la grippe, c'est aussi avoir un moyen de prévention contre les infections bactériennes comme les pneumonies bactériennes.
Et qu'est-ce qui va déterminer la sévérité d'une pneumonie et de ses possibles complications?
Alors ce sont des questions qui sont toujours à étudier au cas par cas, mais si on prend au niveau des populations, il y a deux grands types de populations à risque. La première, c'est les enfants de moins de 5 ans, qui globalement dans le monde sont à la fois très touchés en fréquence et en gravité. C'est la première cause de mortalité par maladie infectieuse, c'est les enfants de moins de 5 ans. Et l'autre population, c'est des populations adultes fragiles. Fragiles en général parce que soit âgés, soit avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies. Soit des maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, ou alors des facteurs qu'on dit d'immunodépression, c'est-à-dire avec des défenses immunitaires affaiblies.
Merci docteur Tanjaoui Lambiot. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du diabète dans Priorité Santé, vous posez toutes vos questions au 33 7 61 18 46 41 sur cette maladie chronique, prévention, traitement, alimentation. Quelles modifications pour la vie quotidienne pour équilibrer son diabète? C'est à retrouver à 9h10, 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et rendez-vous est pris. À tout à l'heure, Caroline Paré. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à Benoît Van Den Broek, à la réalisation, rédaction en chef Grégory Lesca. Restez bien avec nous. Vous avez rendez-vous avec l'actualité africaine dans quelques instants. Avant cela, musique avec le choix de nos programmateurs musicaux. Un choix retrouvé évidemment sur la playlist RFI du mois et c'est les Jamaïcains Mortimer featuring Kabaka, Pyramide et Lil Ike qui nous accompagne avec ce titre Bruises.
I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I answer scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse. Pretend you never used and abused, yeah. I answer scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse, yeah. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused, yeah? I answer scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse, yeah. Now we're blushing, yeah. Skin peeling, cracking. Black Friday sale out, not picnic is out. You made us heavy, yes, with chains and sorrow. Oh, how we cried out, yes, till our eyes dried out. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I used to scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse, yeah. I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I used to scorn and refuse to treat me equally. Don't wanna hear your excuse.
Like say you no use me like a tool, abuse me like a mule, refuse me now your school, then accuse me, say me fool, beat me till my wail up, screaming while you rail up, peel your sugar cane, free me then you're jealous. It's always the black that pay the penalties. Scars on my back, they bear the memories. Bodies found a grave, we none of cemeteries. All we got are these verses and these melodies. And trauma in a me DNA we passed down. Chronic diseases, diabetes and gallstone. Cycle repeat, I know you treat me like a ras clown. It's like a target on my back when me I walk round.
I've got the bruises to prove. How could you pretend you never used and abused? Yeah, I hear she's calling me.
Bruce's, c'était Mortimer featuring Kabaka Pyramide et Lila Ike, un extrait du tout premier album de Mortimer, ça s'appelle From Within.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
La baisse de la natalité devient un phénomène mondial et va bouleverser à terme les sociétés et nos modes de vie. Alors faut-il vraiment s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.